En Timothée au chapitre 3, on a lu le chapitre au complet tantôt avant le temps de prière. Puis là, j'aimerais juste lire les versets 14 à 16, mais vraiment l'objet de notre attention. Ça va être en partie le verset 16. Après ça, il y a dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, on va considérer le verset 7. Donc, je vais juste vous lire les versets-là, puis je vais vous lire ensuite juste 2 Thessaloniciens 2:7. Ça va nous donner le sujet du message. Paul ici écrit à son protégé, « Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des gens, anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Ben, en fait, on va commencer au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, c'est-à-dire le mal dans le monde. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, et là, regardez verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Seigneur, on veut s'approcher de toi parce que c'est ta parole qu'on considère. Et c'est toi, Esprit du Dieu vivant, qui nous en convainc, qui nous l'amène directement devant nos yeux, les yeux de notre cœur, et Seigneur, on veut voir ta gloire, on veut voir les richesses incompréhensibles de Christ, alors qu'on considère ces vérités glorieuses ensemble ce matin. Oh, que tu puisses faire ton œuvre dans chacun de tes enfants et dans ceux qui ne sont pas encore tes enfants, Seigneur, que par la grâce qui est en Jésus-Christ, ces personnes voient leurs besoins et qu'ils voient qu'il y a une seule réponse. Une seule solution, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et comme on l'a vu dans le verset dans Timothée, il est venu en chair et maintenant il est couronné de gloire devant les anges à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est lui qu'on veut prêcher, c'est lui qu'on veut exalter et c'est lui qu'on veut que ceux qui ne te connaissent pas encore voient comme leur plus grand besoin. Seigneur, fais cette œuvre, glorifie-toi au milieu de nous, on s'en met en tes mains au nom de Jésus. Amen. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité, c'est ce qu'on considère, vous l'avez peut-être deviné avec les versets qu'on a lus. Et la raison pour laquelle on considère les mystères de l'iniquité, de la piété et de l'iniquité, ça a rapport avec le thème de juin qui est « Dieu révèle sa colère ». Et avec ces deux mystères-là, okay, un mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui n'était pas révélé auparavant, quelque chose que Dieu gardait caché. Ces deux mystères-là comportent, dans le temps présent, des éléments importants concernant le jugement, la colère de Dieu qui déjà est en train de se manifester dans le monde. On a commencé avec 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Ça, c'est le grand mystère de la piété. Paul le dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » On pense... Ben, en tout cas, moi je le pense. Beaucoup de commentateurs pensent que ce verset-là était probablement un cantique qui était chanté dans l'église primitive. OK? C'est vraiment, c'est très riche. Ça nous dit quelle sorte de cantique qu'il chantait. C'était centré sur Christ, centré sur son œuvre. Et donc ici, c'est quoi ce mystère de la piété? D'abord, on voit l'incarnation, ça dit « Dieu a été manifesté en chair, l'incarnation de Christ. » Ensuite, ça dit « justifié par l'Esprit ». Ça, c'est sa rédemption. Et l'idée, c'est là-dedans, justifié par l'Esprit, ça réfère autant à sa mort, son ensevelissement, que sa résurrection. Tout ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Ensuite, ça dit, vu des anges, c'est sa glorification. Il n'est pas... Il a triomphé de ses ennemis. Okay? Il a été glorifié dans son œuvre triomphante. Ensuite, ça dit, prêcher aux nations, aux gentils, si vous voulez. Puis cru dans le monde. Okay? Ça, c'est son annonciation, sa proclamation. C'est pas une œuvre qui est restée comme ça, cachée, puis qu'il y a juste quelques érudits en Israël qui est au courant. Non, ça a été proclamé hein, sur les toits, cette bonne nouvelle de la réconciliation qui est en Jésus-Christ, et finalement élevé dans la gloire. Ça, c'est sa coronation. Dieu a fait de Christ le nom au-dessus de tout autre nom. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est couronné de gloire, lui le roi de gloire, sa suprématie totale. Amen. Ça, c'est le mystère de la piété. Et pourquoi c'est un mystère? En fait, c'est le mystère, on peut dire. C'est l'évangile qui est là. Okay? C'est vraiment l'évangile dont Jésus-Christ est le centre. Et cet évangile, c'est pour les pécheurs, pour qu'ils soient sauvés, réconciliés avec Dieu. Mais c'est aussi pour les saints. Vous savez que l'évangile, ça n'arrête pas quand on est sauvé. Après ça, on n'a plus besoin de l'évangile. L'évangile, c'est la vie même chrétienne. Et on l'a là, dans un passage comme ça, on voit que ça a tout rapport avec ce qu'on est, ce que nous avons en Jésus-Christ. Et j'aimerais dire que les deux en ce moment, autant les pécheurs que les saints, sont face au jugement de Dieu. Pourquoi? Face à ce mystère de la piété, l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il est rejeté par les païens, par les gentils. On a vu ça, le premier message dans Romains 1. Hein? Puis Romains 2 aussi, on voit que cet évangile a été proclamé, prêché, mais il a été rejeté. Et je dirais que pour nous qui sommes ici, qui sommes des enfants de Dieu, l'heure en ce moment nous montre qu'elle est aussi rejetée malheureusement par beaucoup qui professent Christ. Et je crois que c'est l'accomplissement de ce que Pierre a dit dans Pierre 4, 17, car le moment où le jugement va commencer par la maison, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Je crois que c'est la révélation de ce qu'on a en 2020-2021, avec ce que Dieu a permis, ça a été une révélation de l'état spirituel de l'Église de Jésus-Christ.
Amen.
Et c'est un jugement, c'est un dévoilement de la colère de Dieu contre le péché, de l'incrédulité, de l'orgueil. On va parler de ça durant le message. Mais ça, c'est le premier mystère. Le deuxième, le mystère de l'iniquité, dont on a brièvement regardez dans 2 Thessaloniciens 2:7, le mystère de l'iniquité. De toute évidence, c'est là aussi, en ce moment, avec la folie démesurée qu'on voit dans notre société, je veux dire, notre monde est pris d'assaut par vraiment, c'est de la folie. Hein? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Puis on voit, pas si vous regardez un peu ce qui se passe, mais tout ce qu'on appelle, comment qu'on appelle ça, mais critical race theory, la woke culture, ok, puis là, excusez de toutes mes expressions anglaises, je ne connais pas en français, mais des choses qu'on entend de plus en plus, où est-ce que on systématise le rejet de Dieu, de sa parole, de tout ce qui est Dieu, sa création, de ce qu'un homme est, de ce qu'un enfant est, de ce qu'une famille est, de ce qu'un enfant est, tout ça, c'est complètement attaqué, mis de côté. Ça, c'est le mystère de l'iniquité qui déjà est en train d'agir. Cet égarement, cette puissance d'égarement qu'on voit, qui est en train d'atteindre des proportions inégalées, et on sait qu'elle va atteindre son paroxysme après l'enlèvement de l'Église, parce que ça dit celui qui retient ce mystère-là d'être complètement révélé n'est pas encore enlevé. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui habite l'Église de Jésus-Christ. Et ça, on va voir ça plus tard, c'est le prochain événement eschatologique qu'on attend. Mais déjà, on en voit la puissance du mensonge, la puissance de la tromperie dans le monde et dans l'Église. Malheureusement, beaucoup tombent dans toute la tromperie qu'on voit dans le monde, non seulement hors de l'Église, mais aussi dans l'Église. C'est aussi quelque chose que le Seigneur a révélé en 2020-2021. Donc, on voit que ce mystère de l'iniquité est de moins en moins caché. Parce que Dieu lève le voile, Dieu révèle ses choses, il révèle sa colère, il révèle son jugement. Oui, contre le monde, mais je dirais aussi contre ceux qui professent Christ. Je crois qu'on voit encore là l'accomplissement de quelque chose que Jésus a dit dans Luc 18:8. Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est qui est-ce qui a la foi? C'est qui est-ce qui sont les gardiens de la foi, n'est-ce pas, le peuple de Dieu? C'est pour ça que le péché de l'orgueil et de l'incrédulité sont d'autant plus graves chez le peuple de Dieu, parce qu'ils sont les récipiendaires de la révélation de Dieu. On devrait connaître ces choses, on devrait connaître les temps dans lesquels nous sommes. Mais en général, malheureusement, un constat qu'on a vu, c'est que beaucoup sont égarés avec le reste du monde. C'est tragique. Et là, je ne veux pas parler nécessairement avec les événements de la COVID et tout ça. Ça en fait partie, mais je dirais que là où l'égarement est le plus grave, c'est par rapport à Christ. La croix. Vivre à la lumière de la croix, du pardon complet. Dire comme Paul dans Galates au chapitre 6, de se glorifier de rien d'autre mais que de la croix de Christ. Malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent à côté de ça. La résurrection, vive par la vie de Jésus. OK? Paul, il dit dans Romains 6:11, « Je suis mort au péché, mais vivant pour Dieu. » Comment on voit ça dans l'Église de Jésus-Christ? Des gens qui vivent à la lumière de la croix, de la résurrection, et à ne pas négliger non plus à la lumière de l'ascension de Christ, de sa position suprême. Christ règne. Et combien le voit, lui, dans son règne suprême? Vous savez que le corps de Christ est dans la même position que Christ est. Donc, Christ est au-dessus de toute domination, toute autorité dans les lieux célestes. Et si vous êtes son enfant, vous êtes aussi dans cette position au-dessus de toutes ces choses-là. J'aimerais dire que malheureusement, la majorité des chrétiens vivent comme seulement ici-bas. Et non pas comme ils sont réellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je crois que ça fait partie de l'égarement, du mystère de l'iniquité qui est en train de se révéler et qu'on voit malheureusement affecter l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et je pense qu'une des tactiques par lesquelles Satan veut fomenter ces choses puis amener plus d'égarement puis de confusion, c'est avec les luttes, les querelles internes dans l'Église et entre Églises. Pourquoi? Parce qu'on oublie un verset qui a été cité tantôt. « Ne rendez personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Mes amis, si Jésus-Christ n'est pas le centre de nos vies, de nos familles, de nos églises, s'il n'est pas le centre et qu'il y reste pour être celui qui initie, qui agit au milieu de nous, c'est nous qui prend le centre. C'est la position par défaut. Et dans ce temps-là, quand c'est nous qui prend les choses en main, quand c'est nous qui veut initier, tout vire de travers. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé dans trop d'églises, dans trop de familles. Le problème, ce n'est pas la pandémie, c'est ce que la pandémie a révélé, que Christ n'était pas le centre, que l'homme était l'initiateur et que, avec toutes les raisons qu'on peut se donner, ça l'a donné en évidence qu'on a vu en 2020-2021. Dieu n'a fait que révéler ce qui était déjà là. Et on a besoin de faire confiance à Dieu pour agir et le laisser trancher. Au lieu de se quereller les uns avec les autres puis essayer de prendre les choses en main puis tout ça puis dire « Toi, t'es correct, toi, t'es pas correct. » Laissez Dieu s'occuper de ça. Parce qu'il y a quelque chose d'assez incroyable qui est écrit dans Apocalypse 2:5 où est-ce qu'il parle à l'église d'Éphèse, il lui dit de se repentir. Il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai. » C'est Dieu qui le fait, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est une chose terrible qui en ce moment plane sur beaucoup d'églises. Dieu est en train d'enlever le chandelier. Il y a des gens qui se rassemblent, mais la lumière de Christ, de l'Évangile, n'est plus là. Pour nous, on doit prier, s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est ça qui doit nous animer au lieu de... Galates 5:13, « Frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de ces libertés un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Ce qu'on va constater dans le message aujourd'hui, et c'est encore dans mon introduction, mais je l'achève, c'est que le mystère de la piété, ça consiste dans le fait que Dieu travaille, que sa vie, la vie de Dieu en nous, C'est ça qui est ce mystère. OK? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. D'un autre côté, le mystère de l'iniquité, c'est nous qui se prend pour Dieu puis qui veut faire le travail pour lui. Et c'est ça, c'est l'essence. On va voir ça pendant le message, mais j'aimerais vous dire que la mouvance spirituelle de nos églises au Québec, au Canada, malheureusement, le constat, c'est pas tant pour le mystère de la piété, mais plus de l'iniquité. Et ça, ça encore là, ça n'est seulement révélé. Où est-ce qu'on veut imiter Dieu? On veut prendre l'initiative. Puis on veut que Dieu nous aide dans nos affaires. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Les deux sont en contraste, et la seule solution pour ne pas tomber dans le piège, c'est de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, on va considérer deux jugements vécus en ce temps de la colère de Dieu. De plus en plus, la colère de Dieu se déferle sur le monde. Et voyons deux jugements qui s'ensuivent. D'abord, dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 16, on a l'abandon du mystère de la piété. L'abandon du mystère de la piété. Maintenant, vous dites, c'est quoi le mystère de la piété? Qu'est-ce qui est mystérieux dans la piété? Je suis content que vous le demandiez, fait que je vais vous le dire pourquoi. C'est possible pour quelqu'un, écoutez bien, c'est très important ce qu'elle veut vous dire, c'est possible pour quelqu'un de faire des bonnes choses, mais avec des mauvais motifs. C'est possible d'aider des gens, de les soutenir, de donner de l'argent, de faire toutes sortes de bonnes choses, mais motivés par l'orgueil, la jalousie, la crainte de l'homme. Okay? La chose est bonne, mais le motif est mauvais. Ainsi, les choses qu'on fait sont teintées par notre nature pécheresse. Mais en contraste avec ça, il y a l'œuvre de la grâce de Dieu dans ses enfants, qui n'est pas reliée à notre capacité à imiter Dieu. Okay? La vie chrétienne, ce n'est pas imiter Dieu. La vie chrétienne, c'est plutôt la capacité de Dieu de se reproduire en nous. C'est ça, le mystère de la piété. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. Et dans le fond, ce mystère de la piété, puis Paul en parle dans ses mots, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est Dieu qui fait son œuvre dans ses enfants. C'est Dieu, dans sa grâce, qui fait ce que personne d'autre peut faire. Et je crois que le jugement de l'abandon du mystère de la piété est manifesté dans le fait que l'objet de notre prédication, de notre attention, en tant que chrétien, en tant qu'Église, est passé de mille et une choses, qui peuvent être tous très bonnes, sauf Christ et Christ seul. On peut avoir des formules théologiques, des standards, de la politique chrétienne, toutes sortes de choses qui sont centrées sur l'homme en fin de compte et qui montrent une forte tendance, une forte volonté à vouloir imiter Dieu. Ça, c'est la justice propre qui fait ça. Et qui oublie ou qui néglige, qui ignore le fait que seul Dieu peut faire, peut créer une personne pieuse. La piété, c'est pas que, la piété selon Dieu, c'est pas quelque chose de humain, c'est quelque chose de divin. Et mes amis, il n'y a pas d'autre option pour y arriver que de chercher Dieu, le trouver, le connaître, puis de le laisser lui être et vivre en nous, à travers nous. C'est ça le mystère de la piété, c'est Christ en nous, c'est lui, c'est pas nous, c'est lui en nous. Finalement, c'est le laisser lui être l'initiateur. S'il est en nous, il est vivant, ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Il parle, on obéit. Il donne les directives, on les suit. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça le mystère de la piété. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et lorsque lui prend l'initiative, il nous transforme à son image. Il y a une différence. Nous, quand on veut être transformé à l'image de Christ, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais on peut le faire de notre propre initiative, voyez-vous. Les motifs sont différents. Mais quand c'est Dieu qui prend l'initiative, là, vraiment, il va nous transformer, lui, à son image. Et à ce sujet-là, lorsque nous, on prend l'initiative, qu'on essaie de reproduire l'image de Christ en nous conformant à toutes sortes, puis là, il y a une culture chrétienne là-dedans, tu sais, selon l'église dans laquelle on est, on va se conformer à certaines règles, certaines standards spécifiques à notre milieu chrétien, pour être acceptable. Vous savez quoi? Ça dépasse pas le domaine de la religion. Écoutez ce que ça dit dans Colossiens 2, versets 20 à 23. « Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » C'est ça le problème. C'est ça l'abandon du mystère de la piété. C'est une chrétienté qu'on est capable de rouler nous-mêmes sur notre propre force. Et l'abandon du surnaturel. J'ai une illustration très simple pour vous. Une ampoule. Une ampoule, vous savez, celle-là, bon, je l'ai changée, elle est pétée, elle ne marchera pas. Vous avez beau mettre du courant, elle ne marchera pas. Mais juste pour l'illustration ici, cette ampoule-là, j'ai beau la regarder, y parler, peut-être la plugger dans mon oreille, ça ne va rien donner tant qu'elle n'est pas branchée à du courant. Okay? L'ampoule n'est que l'intermédiaire entre le courant puis ensuite la lumière que ça va générer. Okay? L'ampoule elle-même, elle ne peut pas générer de la lumière. Vous essayerez, là, OK, vous la frotterez, vous faites des incantations à Baal ou je ne sais pas quoi. Elle ne va pas créer de la lumière. Elle a besoin d'être branchée sur le courant. Et n'est-ce pas que Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » On ne peut pas produire la lumière de Dieu, la vie de Christ en nous-mêmes, parce qu'on n'a pas le courant. C'est Dieu, c'est la vie de Dieu qui va faire que cette lumière-là va... Nous, on est juste une ampoule. Tant qu'on n'est pas branché, tant qu'on n'a pas le courant, tant qu'on n'a pas la grâce de Dieu, on ne va rien produire comme lumière. C'est ça le surnaturel. Tu as beau essayer bien fort, d'être bien sincère, puis dire, moi, là, je vais être la lumière la plus sincère du monde. Tant que tu n'es pas branché, tu as beau être sincère, il n'y a pas de lumière. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la sincérité, c'est pas les bonnes intentions, c'est à qui tu es connecté. Et une chrétienté qui a juste des bonnes intentions, mais qui n'est pas connectée à la vie de Christ, c'est une chrétienté comme ça, qui n'a pas de lumière. Il y a une ampoule, puis on peut mettre toutes sortes de bebelles autour, puis faire une espèce d'invention artistique pour que ça ait l'air d'une lumière, mais tant qu'elle n'est pas branchée à la source qui va donner de la lumière, il ne va rien passer. Et c'est exactement ça que la Bible nous dit, écoutez bien, dans 2 Pierre, chapitre 1, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » C'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et je crois que le grand jugement, la manifestation, la révélation de la colère de Dieu contre la fausse chrétienté, contre la contrefaçon des ampoules chrétiennes pas de courant, a éclaté en 2020-2021. En Occident, en tout cas. Je pense que déjà dans les pays asiatiques, la Chine, la Corée du Nord, pays d'Amérique du Sud, déjà c'était évident, parce que là-bas, si tu veux être un chrétien, tendance, puis tout ça, tu ne seras pas tendance longtemps, à moins que tu vas être une église de l'État qui est complètement morte, mais les vrais chrétiens, dans ces pays-là, tu n'as pas cette option-là. Mais là, maintenant, nous, on a de moins en moins cette option-là. Ça a été révélé, ça, en 2020-2021. Maintenant, je pense que ça a été révélé par Dieu au point où est-ce que c'est évident qui est qui. Parce que Dieu a fait un tri entre le vrai puis le faux. Dieu a montré quelle ampoule était branchée et quelle l'était pas. C'est ça l'idée dans le feu du chandelier. Pourquoi? Parce que Jésus ne tolère pas que son nom soit associé à la mort, à l'absence de vie. Et il est très motivé par ça, puis il s'en occupe. Et c'est ce qu'il a fait. C'est un grand avertissement à une église comme la nôtre. Et comme toujours, la solution, c'est la repentance, un retour à celui qui est notre vie, qui est la lumière du monde. Et ça m'amène au deuxième point, Il y a deux points seulement dans le message. Non seulement il y a eu un abandon du mystère de la piété, mais malheureusement, il y a eu une adoption du mystère de l'iniquité. Dans 2 Timothée au chapitre 2, on a déjà lu le verset, c'est simple, c'est vraiment juste l'expression que je veux. Ça dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Le contexte eschatologique ici est important. On a besoin de comprendre que ici, l'adoption du mystère de l'iniquité, c'est littéralement un retour à la tentation dans le jardin d'Éden où est-ce que l'homme s'est fait dire « Vous allez être comme Dieu. » Et c'est ça qu'on voit revenir. Ce mensonge, non seulement n'a pas disparu, mais il revient en force d'une façon inouïe sur une échelle planétaire. Puis voici comment ça se passe. L'écho de ce que le serpent a dit, « Vous serez comme des dieux » dans Genèse 3:5. C'est le reflet même du cœur de Satan. Satan est autosuffisant, orgueilleux, indépendant. Il ne veut rien savoir de Dieu, de dépendre de lui, de lui donner gloire. Et ça, ça se voit comme jamais avec un message incessant qu'on entend dans le monde d'auto-rédemption. T'as pas besoin de Dieu. Tu peux te sauver toi-même. Puis ça, ça veut pas dire... Des fois, on imagine Satan, là, comme... Tu sais, les gars heavy metal, là, puis Satan, puis là, tout en noir, puis... Satan, c'est un ange de lumière. Satan, là, il fait des belles choses, de l'art, puis... Faut pas penser que Satan, c'est juste le petit monsieur avec une fourche, là, OK? Et le mystère, l'iniquité, c'est ce côté-là lumineux, beau, séducteur, qui paraît bien. Satan, de cette manière, a persuadé l'homme qu'il pouvait ressembler à Dieu sans être conscient de Dieu, sans sa présence et sans son autorité. Tu peux tout faire le bien, tout faire des bonnes choses, mais sans Dieu. Satan a réussi à convaincre l'homme qu'il est bon par lui-même, qu'il n'a pas besoin de Dieu. Écoutez bien, qu'il peut être moralement mature sans être spirituellement vivant. Quel mensonge! Je veux dire, c'est ça le mensonge. Vous serez comme des dieux, mais sans la vie de Christ. Alors, je reviens à mon ampoule. Je veux dire, t'as beau avoir toutes les bonnes actions que tu fais. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur notre justice? Elle est comme un vêtement souillé devant Dieu. Parce que tant qu'on n'est pas lavé dans le sang de l'agneau, tant qu'on n'est pas restauré, justifié par Christ, on est ennemi de Dieu. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, je vous lis ce que ça dit. Ça nous dit... Ici, ça parle de Jésus-Christ et ceux qui louent Dieu devant le trône. Il dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté, ou si vous voulez, par ton plaisir, qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dieu a créé toutes choses par sa volonté, pour son plaisir, pour sa propre gloire. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Ben, en ce qui nous concerne, ce n'est pas la performance qu'on pourrait faire, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, parce que ça ne sera jamais assez. Il ne demande que la perfection. Qu'est-ce qui plaît à Dieu chez un homme, chez une femme? C'est sa foi, sa confiance, sa dépendance. C'est ça que Satan attaque. Tu peux tout faire, ces choses-là, mais sans Dieu. Au contraire, Dieu dit non. La seule façon de m'être agréable, c'est par la foi, par cette dépendance. La foi oblige la dépendance à celui qui initie. La foi répond. Dieu initie, la foi répond. Et là-dessus, je dirais que même avant ce qu'on a traversé en 2020-2021, il y avait beaucoup de confusion dans les milieux chrétiens. Rappelez-vous, j'ai prêché, je ne me rappelle plus c'est quand exactement, c'était quel thème, c'était-tu le mois de mars ou avril? J'avais parlé, rappelez-vous, j'avais parlé de l'approche de la vie de Christ, l'approche de la loi des œuvres, puis l'approche hybride, OK? Ça devait faire à peu près 2 mois, là, je ne me rappelle plus exactement c'était quand, mais si on regarde la littérature chrétienne moderne, bon, puis des fois dans l'ancienne aussi, mais beaucoup est sur des livres qui nous amènent des façons de grandir, des façons de ci, de ça, puis cette façon d'avoir un mariage heureux, 3 façons d'élever des enfants qui honorent le Seigneur ou tout ça. Mes amis, toutes ces choses-là ne sont que différents tons, différentes façons d'une approche hybride à la sanctification. Oui, la foi en Christ, c'est des livres chrétiens, mais il y a aussi les œuvres. C'est-à-dire, l'idée, c'est comment être conforme à l'image de Christ avec des bons principes, des bonnes vérités de la parole, mais pas nécessairement par la foi. La foi peut être dans le principe plus que dans le Dieu qui nous a donné le principe. Parce que comprenez, c'est pas que les principes sont mauvais, mais si ma confiance est dans le principe et non pas dans le Dieu, tu sais, que je dis, ah, que je vais vous donner là, une super bonne ampoule, une ampoule là, qui dure 200 000 heures. Puis là, si vous prenez cette ampoule-là, ça va avoir une bonne famille. Vous savez quoi? Prends-moi la meilleure ampoule, tout le monde achète mon ampoule, mais tant qu'elle n'est pas branchée, elle ne sert à rien. C'est ça l'idée de l'approche hybride. Hey, j'ai vraiment une bonne ampoule. Mon ampoule, elle a été créée par Dieu lui-même. Mais c'est vrai que, tu sais, des choses, c'est Dieu lui-même qui a dit ça, c'est bon. Mais tant qu'on n'est pas branché, ça ne sert à rien. Ça va avoir une ampoule qui dure 200 000 heures, qui vaut 200 000 piastres, tant qu'elle n'est pas branchée, elle ne fait pas ce qu'une ampoule est supposée de faire. Elle passe à côté du but. Et c'est ça, le deuxième point, l'adoption du mystère de l'iniquité, c'est d'avoir embrassé ça. Et je pense qu'on a passé proche. Dieu, dans sa grâce, s'est révélé à nous là-dedans. A révélé le fait que ça, c'est l'objet de son jugement, de sa condamnation. Pourquoi? Parce que c'est notre orgueil et notre incrédulité qui motive ça. C'est ça qui est derrière ce piège. Devoir avoir la meilleure ampoule possible, mais pas être branché à celui qui donne la lumière. C'est simple, dans le fond. Et c'est l'esprit qui prend le monde d'assaut en ce moment, avec toutes sortes de bonnes volontés. Je ne sais pas si vous regardez, mais on regarde l'actualité, puis ça, puis les gens de plus en plus, il faut qu'on s'en sorte de cette façon-ci, de cette façon-là, puis il faut qu'on se tienne la main, puis tout ça, parce que les gens voient qu'on est dans la détresse, mais combien qu'on voit qui dépendent de Dieu et non pas de la bonne volonté humaine. Mes amis, ça nous dit, il y a un principe qu'on voit d'après Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction ou de la foi est péché. Et la Bible nous dit que c'est impossible d'être agréable à Dieu autrement que par la foi. Il faut que celui qui approche Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est pour ça que Satan, le monde, notre chair, nous présente toujours une alternative raisonnable à la foi. Une alternative raisonnable à la foi. Tu peux plaire à Dieu, même si tu y vas de cette façon-là. Même si tu te complies. Tu peux plaire à Dieu, même si tu n'es pas branché. Mes amis, ça, c'est l'alternative à la foi. Vous savez que les églises d'État, historiquement, là, moderne en ce moment, là, dans notre pays, il y a des églises d'État. Il y en a en Chine, il y en a partout des églises d'État. Savez-vous qu'ils ont une alternative raisonnable? Ils disent ce qu'on fait, c'est bien, puis. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas par la foi. La question, c'est pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Est-ce que tu te confies en Dieu? Est-ce que tu réponds à ce que Dieu te dit? Est-ce que tu es branché? Est-ce que tu dépends de Dieu dans ce que tu fais? Pourquoi? Parce que on a beau faire toutes les choses les meilleures du monde, si c'est pas Christ qui en est l'initiateur, ça sert à rien, ça va aller nulle part. Et maintenant, je veux même aller ça à un niveau plus loin, nous défions Dieu quand on fait ça. Quand on embrasse, on adopte le mystère de l'iniquité, on s'élève contre Dieu. Peu importe la noblesse de nos œuvres, de nos motifs, la piété de nos actions. Et savez-vous que le monde, de plus en plus, on entend le monde parler. Moi, je l'ai entendu à quelques reprises. Les gens parlent de grand réveil. On entend ça dans les milieux chrétiens puis dans les milieux non chrétiens. Puis c'est vraiment bizarre. Parce que c'est pas normal. Le monde ne sait pas c'est quoi un réveil. Ils sont morts dans leur offense et leur péché. Mais on entend, c'est une tromperie monumentale. Les gens parlent de grand réveil, mais c'est un réveil justement, c'est le mystère d'iniquité. C'est tout en se retroussant les manches. C'est zéro connecté avec le Dieu vivant. C'est la bonne volonté humaine qui essaie de s'en sortir humaine, l'auto-rédemption. Ils appellent ça un grand réveil, mais la Bible appelle ça la puissance d'égarement, l'esprit d'iniquité, le mystère d'iniquité qui agit déjà dans le monde. N'est-ce pas quand même, n'est-ce pas Satan de prendre des mots, complètement les virer de bord? Dieu appelle ça une puissance d'égarement, le mystère d'iniquité, puis Satan appelle ça, lui, un grand réveil. C'est le réveil du nouvel âge, de l'égarement. Maintenant, voici avec quoi je veux terminer. Pour que nous puissions être transformés à l'image de Christ, il fallait que Dieu devienne un homme, semblable à nous. C'est ça l'essence de 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Hein? Le mystère de la piété, c'est quoi? C'est que Dieu a été manifesté en chair. Ça, c'est son incarnation. Il fallait que Dieu vienne parmi nous. Et la personne de la Trinité qui nous convainc de notre besoin d'être branché, de notre besoin de Christ, de sa vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le même qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Le même Saint-Esprit qui nous a convaincus de rentrer par la porte étroite, de mettre notre foi en Jésus-Christ. C'est le même Saint-Esprit qui nous convainc de marcher avec lui. Et c'est lui aussi qui nous convainc de la mort de nos propres œuvres, de l'inutilité d'être juste une ampoule pas branchée. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous rappelle ça constamment. Parce que ça ne va jamais produire la vie de Christ. La meilleure ampoule du monde, tant qu'elle n'est pas branchée, ne pourra jamais produire de lumière. Le chrétien le plus sincère du monde, tant que ce n'est pas Christ qui vit en lui, ne pourra jamais produire la piété qui est en Jésus-Christ. Et voici maintenant comment ça devient douloureusement concret. Êtes-vous prêt à vous faire... Avez-vous amené des capes d'acier ce matin à l'église? Je vais piler sur quelques orteils, et les miennes incluses. Voici comment ça devient concret dans notre vie. C'est là-dessus que je veux terminer. On parle de mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, ça? Écoutez bien. Ça se manifeste en acceptant la vie que Dieu m'a donnée. Savez-vous que Jésus, dans son incarnation, nous, des fois, on a une tendance un peu, des fois, école du dimanche de la vie de Jésus. Il est venu, puis il gambadait dans les pâquerettes avec les 12 apôtres, puis la vie était belle. Mes amis, c'est une vie vraiment dure. C'est un homme de douleur accoutumé à la souffrance. L'incarnation a quelque chose d'horrible là-dedans. Le Dieu de gloire vient dans un monde déchu, brisé, hostile. C'est la vie que Dieu le Père avait pour Dieu le Fils ici sur terre. Il l'a acceptée. Et le mystère de la piété, c'est Dieu qui fait ça en nous. Est-ce que la vie que Dieu, dans le Dieu souverain, a décidé de vous donner, est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous acceptez la vie qu'il vous a donnée avec tous les problèmes, tous les défis, toutes les déceptions, les douleurs que ça comporte? La foi accepte cette vie comme un package deal que tout ça concourt au bien de ceux qui nous aiment. C'est comme ça que Dieu reproduit en nous son Fils. Pour prendre le Romains 8, 28 de l'Ancien Testament, que les frères de Joseph avaient médité de faire du mal, mais que Dieu l'a transformé en bien. La foi, c'est ce qu'elle voit. Oui, la vie n'est pas facile. Il y a des problèmes dans la vie. Les choses ne vont pas comme on veut. Ça fait mal des fois, mais des fois ça persiste. On veut que ça parte, puis ça reste. La foi accepte cela comme venant de Dieu. Tandis que la chair regimbe, résiste et persiste dans le mécontentement puis le ressentiment. Alors la question pour chacun de nous ce matin, c'est est-ce que tu acceptes par la foi, sans tout comprendre, sans tout apprécier. Savez-vous qu'on n'est pas supposé d'apprécier la vie, tout est beau. Non, nul ne vit pour soi-même. On n'est pas dans l'évangile de la prospérité ici. Ah, si tu crois en Dieu, tu n'auras pas de problème. Non, savez-vous quoi? Christ, il n'était pas dans l'évangile de la prospérité. Il était un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Est-ce que tu acceptes cette vie? Dieu nous a créés pour dépendre de lui. Alors arrêtons de nous tromper nous-mêmes en voulant nous convaincre. Parce que c'est nous qui essayons de nous convaincre, c'est pas la conviction du Saint-Esprit. En essayant de nous convaincre qu'on peut vivre contre ce plan initial de Dieu, puis que ça marche pareil. C'est ça le problème du mystère de l'iniquité qu'on embrasse ou de rejeter la piété. C'est de penser qu'on peut vivre pour Dieu d'une façon qui lui plaît, mais sans Dieu. Quand je dis même à l'Église, ça a l'air bien fou, dis, voyons, c'est qui est assez insensé pour penser ça? Mais c'est de même qu'on pense pareil. C'est de même qu'aussi nos vies ont démontré, et Dieu dans sa bonté, Dieu est trop bon pour nous laisser aller à ça, parce que c'est une voie d'autodestruction, et c'est pour ça qu'il nous a envoyé 2020-2021, pour nous révéler ces choses, pour nous délivrer de nous-mêmes. J'ai lu une phrase que j'ai bien aimée dans un livre que je commençais à lire cette semaine. La vie victorieuse s'exprime, elle sort. Et non pas, elle supprime les passions internes. Vous savez, la religion, la piété humaine, tu as des passions en dedans, tu es colérique, tu as plein de convoitises dans ton cœur. L'idée, c'est, faut que tu supprimes ça, faut que tu mettes un bouchon, là. Qu'est-ce qui arrive quand tu mets le bouchon sur une marmite? Pow! Il y en a que ça dure plus longtemps, il y en a que le bouchon est plus ou moins serré, mais c'est pas ça la voix de Dieu. C'est pas mettre le bouchon sans marmite. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Christ qui prend notre marmite, qui vraiment ça marche pas, puis il l'échange. Il prend cette vie-là qui a rien qui marche avec, puis il l'échange pour celle de Christ. Puis il donne cette vie comme étant suffisante, comme étant... Puis ça s'exprime. La vie de Christ en nous, c'est pas qu'on supprime les passions, c'est que la vie de Christ, qui est plus forte que ces passions-là, s'exprime. La puissance expulsante de la vie, lorsque Christ est là, ses passions, ces choses qui sont dans nos membres, ça part. Donc, mon appel, c'est ça, ce matin. D'invoquer ce Dieu qui est bon avec nous autres, qui est patient, qui est plein de grâce, qui est disposé à nous secourir lui-même, en venant lui-même à nous. Ah, Dieu nous a révélé qu'on a rejeté, qu'on a abandonné le mystère de la piété, qu'on a adopté celui de l'iniquité de différentes façons. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. J'ai vérifié tantôt, puis je pense que tout le monde est vivant ici. Tant qu'on est mort, tant qu'on n'est pas mort, il y a de l'espoir. Donc, si vous êtes ici, puis vous dites, « Ouais, mes amis, ça semble tellement grand, les problèmes, il me semble que c'est insurmontable. » Oui, à l'homme, ceci est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. On a juste à se brancher sur la source. Et un dernier mot pour ceux qui ont entendu la parole, mais qui ne l'ont pas encore reçu. Qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ne l'ont pas encore reçu. Écoutez ces deux versets. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est venir à l'église, donner sa dîme, être gentil. Non, c'est pas ça, excusez. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce que Dieu veut de vous, c'est pas votre argent, c'est pas votre piété, c'est pas vos bonnes œuvres. C'est que vous soyez brisé devant Dieu. De dire, Dieu, j'ai rien à t'offrir. Même le mieux que j'ai, c'est rien. Mais je viens à toi parce que je sais que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui a compassion de ceux qui sont brisés comme moi. Amen. Écoutez ce que ça dit dans Ésaïe. Je vous laisse avec ce verset-là, Ésaïe 57, 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés. » afin de ranimer les cœurs contrits.
Amen.
Seigneur, on te remercie qu'on peut venir à toi, ce Dieu. Oui, tu es élevé. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu de gloire. Mais merci qu'en même temps, tu es ce Dieu qui est condescendant, qui est venu jusqu'à nous. En Jésus-Christ, tu es avec l'homme contrit et humilié. Tu ranimes les esprits humiliés, les cœurs contrits. Oh, merci pour ça, Seigneur. Et c'est comme ça qu'on vient à toi, Seigneur. On voit que on ne peut rien faire sans toi. Et on vient à toi, contrit, humilié, mais plein d'espérance. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vrai. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci pour ça, Seigneur. Que tes enfants ici réunis, qu'on réponde à cet appel de la foi. D'être cette lumière par Christ qui vit en nous, dans ce monde. Ah, et pour ceux qui sont encore en dehors de Christ, qui ne sont pas encore réconciliés par le sang de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. On plaide le sang de Christ sur ces personnes, qu'ils puissent voir leurs besoins, invoquer la grâce de Dieu pour le salut de leur âme. Seigneur, agis, glorifie ton nom. C'est en ton nom qu'on demande toutes ces choses. Amen. Amen. Si vous voulez prier,